Guerre de livres d'Annie Ernaux qui ne porte mention de chansons et guerre de mentions qui ne varie leur mode d'exposition. Citation d'un titre ou d'un nom d'artiste, interpolation d'un extrait, recensement à l'intérieur d'une liste, commentaire plus étayé. De la première chanson référée dans les premières pages du premier livre, Les armoires vides, Quand tu seras dans la purée, reviens vers moi, à celle figurant dans l'extrait du journal inséré au début du dernier ouvrage à ce jour publié, Écrire à la vie, Toi qui disais, page 32, c'est tout un répertoire composite qui s'égrène, fait de refrains à dessous ou de chants patrimoniaux, de succès populaires ou de grands classiques de la chanson d'auteur. Voyage à Cuba traverse la honte, le bal perdu se perdre, c'est fatal animal, passion simple, j'ai la mémoire qui flanche l'événement, le temps du muguet, la vie extérieure, comme les corons, que l'on retrouve en écho dans les années, livre se déployant lui-même d'une fleur de Paris, timbrant la France de la libération, à un voyage-voyage, chantant les années 1990 par la voix d'une vedette éphémère, Désirless, mais livre se nouant aussi autour d'une référence répétée aux figures émancipatrices de Ferret et Barbara, Nougaro et Ferrat, Brel et Brassens, le Brassinge des armoires vides. Ainsi se constitue un dispositif mobile qui contribue à l'élaboration d'un autoportrait décentré et à l'appréhension par le menu d'états de société, tous situés dans un temps précis, mais tous suspendus dans le temps de la remémoration. Attestant une époque spécifique et les goûts autant que les engouements qui lui sont propres, les chansons acquièrent dans les récits une fonction probatoire. Elles visent à certifier une démarche de connaissance indivisiblement personnelle et collective. Leur puissance tient au fait qu'elles se diffusent. Elles se diffusent dans l'air du temps, dont elles constituent comme l'indicatif, le fond sonore, un air que l'on entend comme de l'air que l'on respire, sans y penser toujours, mais qui n'en est que plus prégnant, qui s'insinue en soi et forme un gisement semi-conscient de souvenirs à demi enfouis, faits de gestes, de sensations, de situations. Elles font corps avec soi-même, les entendre un peu plus tard ou longtemps après, c'est comme capter physiquement la bouffée d'une époque que l'on sait révolue, entendre un rappel à soi, l'intimation physique à une vie que l'on pensait lointaine et qui est, de façon indivise, sa propre vie et celle des autres. La puissance des chansons tient au fait paradoxal qu'elles se volatilisent dans le temps et se dématérialisent dans l'espace et le sujet vivant, le sujet vibrant avec elle, comme un concentré de moi volatile qui se ressaisirait par leur intermédiaire ou par leur médium, dans le seul temps d'une mémoire organique. Si elles importent, c'est donc par cette capacité d'effacement et par les traces qu'elles laissent, devenant comme autant de signes que l'écriture travaille rétrospectivement. Alors, mon propos visera à spécifier ce lien singulier entretenu par l'œuvre avec la chanson en sa double qualité de pratique anthropologique et de catégorie esthétique. Alors, les chansons citées par Annie Ernaux jouent avant tout, me semble-t-il, un rôle de métonyme, des fragments qui permettent de reconstituer des ensembles significatif, à la fois usage et humeur d'une collectivité et moment échelonné dans le temps d'une vie familiale et amoureuse. Elle participe pleinement de cette archéologie de la mémoire à laquelle s'adosse le travail de l'auteur. Les chansons constituent en effet des données culturelles brutes qui, à même le récit de soi, entretiennent la démarche ethnotextuelle. chanson d'enfance, l'aviron, et d'adolescence, pirouette, cacahuète, chanson des colonies de vacances par excellence, chant religieux, les cantiques évoqués dans une femme ou dans la honte, et chant patriotique, la marseillaise, chanson de banquet, ah le petit vin blanc, dans les années, ou chanson de carabin, ah fous-moi donc, tac, etc., etc., dans l'occupation. Je reviens tout de suite, celle-là, on la chantera pas, hein, ce soir. Chanson de rue, de manif, de kermesse, de fête foraine, devenue au fil du temps, chanson de RER ou de supermarché. À chaque âge de l'existence, comme à chaque circonstance de la vie collective, son type de chanson, à la fois ritualisée et individualisée, tenant lieu en cela d'une mémoire oblique de la cité et de soi-même dans la cité. Leur consignation est interdépendante dans les récits de celle des objets qui les diffusent et qui, comme elles, agissent sur les automatismes du corps et modèlent les gestes, les réflexes quotidiens, la capacité d'écoute, la puissance d'impression et de résonance en soi. Électrophone, haut-parleur, jukebox, magnétophone dans les armoires vides, mange-disque, transistor, hi-fi dans les années, et jusqu'aux nouvelles fonctions technologiques, cette playlist d'amour et de mort référée dans l'article de la NRF, autant d'objets cadres dont l'évocation restitue des environnements familiers, les traces d'une intimité privée commune à tous, autant par leur caducité même que du temps qui passe et de l'imaginaire social investi en ces objets et par leur époque. Dans ces deux livres, en particulier Les années, mais d'emblée, dès le premier d'entre eux, Les armoires vides, la présentation de ces objets fétiches se nappe d'un soupçon de mythologie barthésienne. Au travers des refrains à la mode, des vedettes qui le popularisent et des objets high-tech qui les canalisent, s'impose un système de valeurs accompagnant les Trente Glorieuses et plus spécifiquement le développement d'une société de consommation qui tente à réifier l'individu. Il suffit d'ailleurs, dans les années, d'une chanson foule sentimentale de Souchon pour saisir le malaise qui en résulte dans les années 1990, une fois retombée l'illusion de cette dite société de consommation. Alors, divers types de chansons balisent ainsi les récits dans toute leur variété, un mot recouvrant ici sa pleine acception, la variété pour la chanson, dans tous ses états, liée à une variété des sources de la culture personnelle, depuis laquelle celle qui écrit fait œuvre, et dans laquelle il n'est pas, a priori, d'échelle de valeur prescrite. Une volonté d'afficher que la discothèque chansonnière vaut la bibliothèque classique dans la formation non seulement de la sensibilité, mais aussi par l'usage littéraire qui en est fait, de la capacité de jugement et de l'aptitude à la connaissance. On trouve, d'un livre à l'autre, ces grands succès faciles que l'on a appelés tour à tour, selon les époques, des si, dans les années 30 et 40, le grand frisé, succès de Fréhel, cité dans les armoires vides, des tubes, dans les années 60-70, l'Amérique, par Joe Dassin, des hits, dans les années 80 et 90, I Will Survive, mais aussi des succès d'une époque s'inscrivant parfois dans la durée, qui seuls élèvent quelques airs légers et quelques paroles en l'air à la dimension d'une chanson culte, comme le « Parlez-moi d'amour », grand succès de Lucienne Boyer, que fredonne le père. le spectre des références s'ouvre ainsi de la chanson grand public à la chanson d'auteur, de la chanson idiote, je cite une expression employée dans Se perdre, à la chanson à texte, dont les icônes sont citées dans un refus délibéré de toute distinction. Que ces icônes soient à paillettes télégéniques, yéyé et post-yéyé, ou qu'elles soient à dorures anthologiques, les 3B, auxquels par extension peuvent aussi prétendre deux autres B, les 5B, donc Brassens, Brel, Barbara, mais aussi Béart et Bécaud, tous cités dans un livre ou dans un autre par Annie Ernaux. C'est que les chansons, comme les goûts qu'elles cristallisent et les valeurs qu'elles recouvrent, répercutent à un double niveau la lutte des classes, sans qu'il soit d'ailleurs, pour le faire entendre, nécessaire de chanter, ni même de citer, une internationale absente, à ma connaissance, des livres de l'auteur. On connaît la division ancienne de l'espace culturel entre culture savante et culture populaire, la chanson relevant de ces dernières par opposition à la poésie, par opposition à la musique. Et je renvoie pour des analyses plus approfondies de cela aux travaux d'Élise Hugny-Léger dans Annie Ernaux, une poétique de la transgression, bon, qui analyse entre autres les effets de ce phénomène sur le plan de la réception. À partir des années 1950, c'est une autre division qui se met aussi en place à l'intérieur de cette première, une sorte de partition interne au champ esthétique propre à la chanson elle-même, entre des chansons de grande consommation qui radicalisent en quelque sorte jusqu'au simplisme la simplicité inhérente aux chansons populaires, et des chansons de haute création qui, non sans une certaine sophistication, tendent à se substituer à une poésie en perte de prestige, de vitesse culturelle et de lecteur. La chanson, donc, dans ces années 50, se légitime comme un art à part entière, non plus sur le mode ancien du « ni poésie, ni musique », mais sur celui revendiqué du « bi » et « poésie » et « musique ». C'est le phénomène des auteurs-compositeurs-interprètes, des cabarets rive gauche, du club des poètes, esquissé par Trenet dès le milieu des années 1930 et accompli par la génération des 5B, avec aussi des artistes, tous cités par Annie Ernaux, comme Nougaro, Gainsbourg, ou encore, moins connu, mais tout aussi intéressant, Colette Magny ou Lenny Escudero. Alors, l'écrivain joue de ce processus de légitimation propre au genre de la chanson pour mettre en scène son propre itinéraire d'ascension culturelle, et à travers le sien celui de beaucoup d'autres, de façon d'autant plus sensible qu'elle en est, dans son adolescence, la stricte contemporaine. Ainsi, dans La femme gelée, du quatuor de chanteurs permettant d'évoquer, c'est entre les pages 62 et 69 de la collection Folio, les goûts d'une adolescente clivée entre des vedettes, Lynn Renault, Luis Mariano, et des poètes, Mouloudji, Léo Ferret. De façon plus militante, entre guillemets, dans Passion simple, et je reprends la citation qu'Alain Schaffner faisait hier, Phèdre est placé sur un même plan que les chansons de Piaf dans, je cite, « les modèles culturels du sentiment qui m'ont influencé depuis l'enfance ». Et dans le journal du dehors, Annie Ernaux s'insurge contre les colibets dont sont l'objet un succès d'été auprès d'un auditoire qui cultive ainsi sa propre distinction, vient donc boire un coup à la maison, etc., etc. Alors, c'est en quelque sorte cette diversité, cette labilité de la chanson, et ce spectre très ouvert à toutes les variétés de la chanson, qui en fait, dans l'œuvre, un médium particulièrement en phase avec les états les plus hétérogènes de l'individu, avec sa polymorphie d'une époque à l'autre de sa propre vie. La fonction métonymique propre à la chanson se double donc de ce que j'appellerais une fonction métronymique. En 2 minutes 35, de bonheur ou de malheur, une chanson peut en quelque sorte affoler l'horloge interne, la rythmer, mais la rythmer à rebours de la chronologie vécue et en accord avec le temps cyclique du vivant. Dans l'Atelier noir, Annie Ernaux recourt à l'image proustienne de la Madeleine pour désigner en quelque sorte cette fonction. Une Madeleine sonore, sans tasse de thé autre que le phénomène acoustique élémentaire par lequel du son infusé dans de l'espace impressionne un corps et suscite en lui, entre sensations brutes et émotions cérébrales, des états autres que la seule nature matérielle de ce son, euphorie, angoisse, gêne, surprise, etc. Entendre une chanson ancienne, c'est se ressaisir d'une période à l'autre de sa propre vie, depuis une somme de gestes et d'émotions passées, qu'il suffit de quelques notes et de quelques paroles pour réactiver. Les chansons agissent ainsi en retour du temps, parce qu'elles conservent une efficience physique. Ainsi, de ces chansons ecchymoses, devenant au fil des ans des chansons cicatrices, que la narratrice s'interdit d'abord d'entendre parce qu'elle révèle, ou réveille plutôt, un passé qui demeure douloureux et auquel elles sont associées, Happy Wedding, ou juste quelqu'un de bien dans l'occupation, ou parce qu'elle se subsume dans quelques figures types comme celle de la lyrique des amours perdus, Balch et temporel de Guy Béard dans Se perdre. C'est en quelque sorte son propre spectre auquel l'individu est confronté lorsqu'une chanson résonne ainsi à l'oreille. Alors, toutefois, on a déjà beaucoup commenté les rapports et les différences avec Proust. Toutefois, la Madeleine est liée chez Proust à un type de fonctionnement de la mémoire involontaire, auquel il confère une pleine amplitude, par opposition à la mémoire volontaire qu'il juge d'action plus limitée. La mémoire involontaire fonctionne en effet par un jeu de mécanismes associatifs au travers duquel s'estompe la césure des époques et la mesure divisée du passé et du présent. Selon Proust, elle restitue donc physiquement le sentiment de l'expérience éprouvée. La mémoire volontaire, elle, dépendant d'un seul acte de conscience, échouerait pour sa part, à retrouver cette partie sensible inscrite à même le corps de l'expérience vécue. Dans l'œuvre d'Annie Ernaux, parce que son projet littéraire comporte un pan ethnographique s'accommodant mal des seules données de l'effusion, la mémoire volontaire occupe, elle aussi, une place très importante. Elle accompagne une investigation du passé, fondée sur des pièces à valeur de documents dont il s'agit de sonder intentionnellement ce qu'ils peuvent ou non signifier. En d'autres termes, et pour filer la métaphore pâtissière de façon légèrement irrévérencieuse, si la chanson est une madeleine dont se dégage une saveur intense propre à la réminiscence, le goût de soi-même retrouvé d'un âge à l'autre de sa vie, elle est aussi une biscotte qui alimente l'ordinaire du travail littéraire. elle nourrit l'enquête à laquelle s'apparente le récit en s'intégrant dans des dispositifs heuristiques. Les chansons permettent ainsi de prendre la mesure du sujet en l'inscrivant dans une série de repères, tranches d'âge, époque, génération, séquence de vie. À l'image de la Madeleine, connotant la mémoire involontaire, correspond en cela le terme plus neutre, presque didactique, de marqueur temporel employé dans les années par l'écrivain pour caractériser une démarche pilotée quant à elle par la mémoire volontaire. Les chansons participent ainsi, cela a déjà été dit dans d'autres communications, d'un réseau de marqueurs pragmatiques, des photos, des archives, des articles de presse, des faits divers, des objets, qui constituent un tissu de signifiance auquel l'ouvrage se ramène, un texte qui fait sens en entremêlant des éléments hétérogènes, chacun détenteur d'une part d'histoire en elle-même anodine, mais dont le rapprochement, tout à la fois somme et télescopage, liste énumérative, mais aussi table de matière, peut susciter une connaissance, ou du moins les éléments d'une interprétation possible de la vie. Ce montage opère dans les années, comme dans une femme, dans l'événement, comme dans une place, mais l'exemple que j'aimerais développer quelque peu, c'est celui que l'on trouve dans La Honte. La scène du 15 juin 52, « Mon père a voulu tuer ma mère », est appréhendée au travers d'une liste qui vise à l'inscrire dans une matérialité de la vie ordinaire, une chronologie du temps simple. Quelques chansons participent de cette liste de, je cite, « traces matérielles », à partir desquelles le texte se construit comme une enquête tant ethnocritique que familiale. Au même titre qu'une carte postale d'Élisabeth II, un missel, une petite trousse à couture, la partition d'une chanson à succès, Voyage à Cuba, avec ses interprètes, je cite, Patrice et Mario, les sœurs Étienne, Jean Sablon, etc., et la mention de deux succès de 1952, Ma petite folie, interprétée par Lynn Renault, et Mexico, l'un des airs les plus célèbres de l'opérette Le chanteur de Mexico, de Francis Lopez, interprété par Luis Mariano, s'inscrivent dans ce réseau de signes matériels. Ce réseau fait sens littéralement, il inscrit la scène dans la normalité d'un cadre d'époque, et littérairement, il restitue cette évocation à une opacité qui contient sa part de terreur latente. Ce sont ses propres affects, la mesure de sa propre perturbation, que la narratrice liste implicitement, sans en passer par quelque analyse psychologique inopérante. Pour rappel, la photo, parce que c'est connu, ça a déjà été étudié, mais c'est pour mettre en perspective ce qui suit sur les chansons elles-mêmes. Pour rappel, la photo est présentée comme tachée, et le souvenir est celui d'un dégoût lié à cette tache. Le missel de la préadolescente désoriente rétrospectivement celle qui le feuillette. Étrange, obscur, malaise sont les mots employés pour caractériser les effets de sa lecture. La trousse de couture est décrite par l'absence de ses outils, ciseaux, crochets, poinçons, autant d'armes potentielles qui ne sont pas sans rappeler, comme miniaturisée, la serpe saisie par le père dans la cave. La présentation des chansons, quant à elle, semble différer, et c'est cette différence qui importe. Elle semble apparemment édulcorer la scène de la cave, réparer la mémoire blessée du monde de l'avant en évoquant un univers du sans-souci où domine, sur fond de musique légère, la joie de vivre l'instant, chanson de Lynn Renault, et l'avenir qui s'offre à l'enfant avec le monde sur un fond d'air exotique de Cuba à Mexico. Mais c'est aussi la traîtrise des chansons qui se découvre, une simplicité fausse, une capacité à accréditer par la puissance d'impression qu'elles exercent sur l'être, une vision idyllique de l'univers, bien loin de la réalité, leur capacité d'aliénation, en quelque sorte. C'est encore leur double langage qui s'éprouve. Cette façon, propre aux chansons populaires, en recyclant des clichés, de donner aussi à entendre la part de violence normalisée que ces clichés canalisent. « Ma petite folie », le titre de la chanson résonne ici comme en écho discordant avec la scène du coup de folie qui ouvre le livre. On songe alors à la résonance que recouvre, référée à la situation dans laquelle elle s'inscrit, dans un autre livre, l'événement, le titre et le texte d'un tube de Claude François, « Si j'avais un marteau ». Les chansons, avec la carte postale et quelques objets usuels, constituent donc dans la honte un tissu de signification où s'énonce indirectement le traumatisme d'une scène restée inachevée et la conversion en une séquelle d'ordre psychique d'un crime qui n'a pas eu lieu physiquement. Tissu subtil, au sens irrésolu, qui ne compose aucun texte définitif, mais restitue l'expérience à sa propre incertitude et aux tensions contraires qui la traversent. La mention des chansons permet de dramatiser cette irrésolution, dire, sans le nommer, quelque état d'inquiétude résultant, de la coexistence du monde d'avant, l'harmonie familiale, et du monde d'après, la tragédie familiale en suspens. Par ailleurs, aux chansons qui euphorisent « Ma petite folie » et « Mexico » s'opposent, portées par les mêmes ondes, les chansons qui paralysent. Une chanson, je cite, mais cette fois-ci extraite de la première séquence du texte, une chanson, je cite, « qui passait souvent à la radio et évoquait et mimait une bagarre surgissant brusquement dans un saloon. Il y avait une période de silence » où une voix chuchotait juste, on entendrait une mouche voler, puis une explosion de cris, de phrases confuses. À chaque fois, j'étais saisi d'angoisse. La chanson, en fait, s'intitule « On entendrait une mouche voler ». C'est l'un des premiers succès d'Henri Salvador. Dans le livre, elle n'est pas nommée en tant que telle, peut-être parce que, à l'image du traumatisme qu'elle annonce ou dont elle fonctionne comme la crypte, elle demeure innommable. Mais sa mention est incluse dans la première unité du récit qui s'achève, on y a fait référence aussi, c'était Christian Baudelot, je crois, par l'évocation de l'affaire Dominici, autant de façons de dire le crime à l'identique de ce qu'il représente, sans le nommer puisqu'il n'a pas eu lieu, mais en désignant de façon différée ces effets eux-mêmes déplacés d'une personne à l'autre et d'une époque à l'autre. Ce qui intéresse alors aussi dans le traitement de cette dernière chanson, celle de Salvador, c'est la part de l'incertitude cognitive liée au médium, l'oubli partiel, la part d'oubli partiel liée aux chansons. Si, en règle générale, les photographies suscitent un sentiment d'étrangeté du sujet face à sa propre image, c'est en raison même de leur puissance d'objectivation matérielle. Ça a été, c'est indéniable. Rien de tel avec une chanson qui, n'étant pas un objet matériel visible ou tangible, renvoie ouvertement au flottement des souvenirs eux-mêmes, comme peut-être aux ruses de l'inconscient ou aux fabulations de l'imaginaire également. La narratrice se sert en quelque sorte de cette impalpabilité de la chanson, de ces incertitudes de la mémoire, comme d'un aimant capable d'attirer à la surface du texte des éléments de connaissance supplémentaires. Et je cite une phrase de l'usage de la photo, « La chanson est expansion dans le passé, la photo, finitude. De façon plus générale, en jouant sur les réflexes d'une mémoire collective qui se transmet par déperdition autant que par accroissement et n'est jamais la même d'une personne à une autre, donc d'un lecteur à l'autre, le travail mené sur la chanson ménage dans le processus littéraire la place réservée aux pièces manquantes, à la perte, à l'oubli. Et nous retrouvons là une problématique que Thomas donc abordait ce matin. Nous savons tous encore qui est Dalida, parce qu'elle est devenue une icône. Mais qui se souvient encore, aujourd'hui, des sœurs Étienne ou de Jean Sablon, le Tino Rossi à moustache? Alors, il en résulte, dans l'usage de ces chansons, une dynamique de l'effacement et de la résurgence, de l'évanouissement de soi à un monde lui-même révolu, et de la réincarnation de ce monde en soi par les effets d'emprise qu'exerce une chanson avec son cortège d'images organiquement mémorisées. Réincarnation plutôt que restauration, non pas exercice psychoréaliste de fabrication d'une scène de souvenirs rétrospective, mais expérience de restitution littéraire commandé depuis l'absence et qui rend compte, par sa fragmentation et la part belle, la part blanche accordée dans le texte aux interstices, qui rend compte donc au processus et du processus de la disparition. Resterait alors associée à l'usage de la chanson une troisième fonction, plus proprement métabolique. Chanter au quotidien, c'est être mu par un élan proprement vitaliste qui détache de soi, arrache à la seule mesure de soi, donne envie de bouger, de danser, de consumer la pulsion de vie. Avec une chanson, en quelque sorte, l'individu s'éclate à tous les sens du terme. Ainsi, de l'adolescente, qui, à 14 ans, s'époumonne en chantant avec Luis Mariano « Mexico », la chanson de tous les envols, de toutes les altitudes pressenties. Ainsi, de la femme qui chante et danse sur l'air de « I will survive » devant son amant. Ainsi, de la fille adulte qui, rentrant en voiture de l'hôpital où sa mère vit, est littéralement happée par la chanson de Léo Ferret, cet extra. Et l'article de la NRF, reprenant cette scène, en développe l'hypothèse, en quelque sorte par la polarisation de cette chanson, l'énergie thanatique transmise à la fille par la mère qu'elle quitte est comme convertie en une énergie érotique dévolue à l'amant qu'elle s'apprête à rejoindre. Fille alors de la Madeleine proustienne, il en irait plutôt de la fonction de certaines chansons comme de celle du parfum dans certains poèmes de Baudelaire qui favorisent tout à la fois la vaporisation et la concentration de soi à travers le temps. La vaporisation, c'est appliquée à l'œuvre d'Annie Ernaux, être soi-même diffusé dans l'air du temps, devenir la voix commune autant que l'oreille de tous. Les références insistantes aux chansons rendent en quelque sorte possible cette tension transpersonnelle qui anime le projet de l'écrivain. Dans la préface du journal du dehors, Annie Ernaux commente, on le sait, cette projection dans le monde extérieur, je la cite, qui agit en retour sur soi, permet de se découvrir soi-même beaucoup plus que par un geste d'introspection limitée. C'est par la voix d'un autre, dans les mots et les notes d'un autre, tels qu'ils sont repris par tous les autres, et font de la chanson un gigantesque lieu commun que la narratrice construit de livre en livre, par petites touches, un autoportrait implicite, et que sa propre personnalité se mesure, et que de la singularité se concentre. On songe aux chansons qui reviennent d'un livre à l'autre, et davantage qu'un simple statut de chanson préférée, préservent en elle quelque chose d'essentiel, l'image de celle qui les adula, c'est-à-dire qui s'y projeta, Histoire d'un amour, succès de Dalida, Un jour tu verras, la chanson de Mouloudji, présente dès les premiers textes et reprise dans l'article NRF sur la chanson. Ces chansons transmettent en quelque sorte un noyau irréductible de la personnalité intime tel qu'il traverse les années et ne saurait se dire ni s'écrire autrement que par leur médiation. Comme s'il y avait une puissance de subjectivation qui s'exerçait par leur intermédiaire. Pour un jour tu verras, peut-être, l'attente de la rencontre, la déambulation, la conjonction du hasard, le chaos. On serait proche ici d'un sentiment d'ipséité, pour employer un gros mot, une permanence de soi à travers le temps, polarisée par un corps étranger, la chanson, éprouvée en résonance constante avec ce corps sensible, une voix, une musique, des images. Cette coïncidence magnétique de soi à soi-même s'oppose en quelque sorte au constat d'absence du procès verbal biographique, à l'effet d'étrangeté saisissant celle qui s'auto-analyse à froid. De l'air d'une chanson à la figure d'une chanteuse, ce sont aussi, parfois, de troublantes métamorphoses qui conduisent celle qui écrit à se penser elle-même comme un montage de femmes autres, à composer en quelque sorte la partition virtuelle de sa propre vie en insérant des bribes de celle de la star d'une chanson, Sœur Sourire, ou d'un répertoire Dalida. L'une et l'autre ont en commun, au mépris des règles pour l'une dans leur consomption pour l'autre, d'avoir chanté leur vie tout autant qu'elles ont en quelque sorte vécu leurs chansons. Dans ces effets métaboliques, ce qui vaut pour soi vaut aussi pour l'écriture du texte de soi. On songe aux interpolations d'extraits de chansons. Le récit s'absorbe alors textuellement dans une bribe de chansons rapportées qui énonce une parole en phase directe avec l'intime. Ainsi, des paroles de voyage à Cuba, recopiées dans la honte. Ainsi, des paroles citées en fin d'un fragment du journal dans Se perdre, après celle de la narratrice. Alors je cite, ce sont d'abord les propos de la narratrice. Il n'y a rien ici d'autre que l'usure du temps sur le désir. Pourquoi n'avoir pas la force de l'admettre et d'en tirer des conséquences positives, comme autrefois, je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Ces deux alexandrins, dont le texte épouse la voix ou la loi, pour mieux mesurer ce qui en sépare aujourd'hui celle qui les écrit, sonne en quelque sorte le rappel de soi à soi-même, ou plus sûrement, plus cruellement, donne la mesure du libre arbitre de celle qui, en s'abandonnant à la douleur d'aimer, transgresse ses propres interdits. Nommer sans dire, c'est ici fondre sa propre voix dans celle de Barbara et abstraire le texte dans une chanson dont le titre concentre en quelque sorte l'esprit du livre, dit « Quand reviendras-tu ?» Une voix en recouvre une autre qui disparaît en elle pour mieux s'en démarquer en la faisant sienne, en l'insimilant et en l'infléchissant aussi. Cette tension donc, concerne la situation du sujet qui écrit, mais aussi du texte qui est produit. L'un et l'autre, le sujet humain et le texte littéraire se projettent par intermittence dans des figures et des corps autres dans lesquels ils semblent disparaître, se perdre. Mais où est la proie, où est l'ombre? méfions-nous, dans l'œuvre d'Annie Ernaux, du jeu de l'abandon et de la conquête, de la perte de soi et de la capture de l'autre, tel que s'en enivrent certains artistes de la chanson qu'elle cite, des chanteurs, Brel, Aznavour, ou des chanteuses, Piaf, Dalida. L'amour oblatif, on a souvent employé ce terme depuis quelques jours, l'amour oblatif, celui qui sous-tend « Mon Dieu », la chanson d'Édith Piaf, circulant comme un refrain dans « Se perdre », est-il, comme les vieilles psychologies l'affirment parfois, l'antithèse de l'amour captatif ? N'est-il pas plutôt la forme la plus subtile ou la plus perverse de son accomplissement ? Je me confirme moi-même en allant jusqu'au bout de l'abandon volontaire que je te fais de moi et au travers duquel je te possède. Dans « Mon Dieu », la chanson qui scande « Se perdre », l'interprétation d'Édith Piaf, son art d'entonner le mode impératif en crescendo ne laisse guère de place au doute. Si la prière commence comme une supplication, elle s'achève bel et bien comme un ordre. Alors, en guise de conclusion, tout à la fois donc métonyme, métronome, métabole, quatre gros mots, c'est décent à Cerisy. On mesurera l'importance de la chanson dans l'accomplissement du projet littéraire de l'écrivain, tel aussi qu'une consigne extraite de la préface d'Écrire la vie, finalement, le formule indirectement. Mettre au jour quelque chose de l'ordre d'une vérité sensible. Plus que d'autres supports peut-être, la chanson se fait la médiatrice de cette recherche. Mais, me semble-t-il, elle stimule aussi la quête ou l'utopie d'une double coïncidence avec soi-même et avec les autres, par-delà la distance du temps et des corps. Elle est le médium privilégié qui rapproche, qui unit. Cette indivision des corps intimes et sociaux, plusieurs scènes l'énoncent. Des repas de famille, de la prime jeunesse, aux scènes de manifestations scandées par des refrains de circonstances, de la petite fille juchée sur les épaules d'un père qui lui apprend à chanter la Marseillaise, à la même, devenue grande, qui aime l'homme étranger avec, en fond sonore, une chanson d'Yves Duteil. Mêmes images de corps humains qui n'en font qu'un, par-delà le temps qui les a dissociés, parce qu'une chanson en pérennise la fusion, même unité vivante d'un corps multiple, dont seule une chanson, jadis reprise à l'unisson, garantit l'existence comme un témoin de solidarité. Ce qui vaut pour le groupe vaut aussi pour le sujet en mal de solidarité interne et s'éprouvant d'une époque à l'autre de sa vie comme étranger à lui-même. Une chanson suffit à le réconcilier avec sa propre éternité. Comme le temps dont il constitue un marqueur narratif, le récit distingue, divise, dissèque, dissocie. La chanson, elle, semble exercer l'effet inverse et son insertion dans le texte suscite comme une force de gravitation contraire à la dominante linéaire de l'écriture, à son fléchage. Elle ne dévite pas du temps perdu au fur et à mesure qu'il s'énonce comme ayant été vécu. Elle concentre, dans la forme cyclique de ses refrains, du temps perçu dont ses paroles et son air, si diaphane soit-il, restituent instantanément, quelle qu'en soit l'obsolescence, les impressions physiques. On me permettra alors de poser à mon tour la question qui traverse l'article d'Annie Ernaux dans la NRF et qu'elle pose explicitement. N'y a-t-il pas dans les chansons, comme dans l'art, quelque chose de cette ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité, évoqué par Baudelaire. Je vous remercie de votre attention.